Alors, on a commencé une étude du livre des Actes, on va la continuer. Ce matin, on est en Actes, chapitre 6, et nous allons lire les versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et dans notre passage ce matin, nous allons apprendre des choses sur le service. Dieu, en inspirant Luc pour nous donner cet événement, voulait qu'on comprenne certaines choses sur le service. Et j'aimerais donc qu'on voit ce qu'est le service au milieu des frères et sœurs. Notre Seigneur ne nous a pas appelés à nous faire servir, mais à servir les autres. Et il a illustré par sa propre vie comment, eh bien, en se mettant à genoux, prenant un bassin et en lavant les pieds de ses disciples. Et puis ailleurs, il a dit cette parole: « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Alors le service, pourquoi servir? Qu'est-ce que le service? On va voir d'abord ce matin la nécessité du service. Ensuite, on verra que le service est une responsabilité. Et puis on verra enfin qu'il y a de la joie dans le service. D'abord, la nécessité du service dans le corps de Christ. Relisons le verset 1 ensemble. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et si on a une bénédiction et un problème, les deux sont liés. La bénédiction, c'est que le nombre des disciples augmente. On peut dire que quand on lit le livre des Actes, le nombre des conversions, c'est exponentiel. L'Église est en train d'exploser, de grandir, de croître. Mais plus il y a de personnes ensemble, plus il y a aussi de pécheurs ensemble. Et ça veut dire, eh bien, il y a aussi un potentiel de problèmes qui se développent, qui augmentent, parce que nous sommes des pécheurs. Et ici, c'est bien un problème qui est lié au péché. Qui étaient les hellénistes? C'étaient les Juifs qui était né en dehors d'Israël, et très souvent, une fois qu'ils arrivaient à un âge mûr, âgé, qu'ils étaient âgés, ils revenaient habiter dans leur terre ancestrale. Et puis, l'espérance de vie, on imagine, pour les hommes, était plus courte que celle pour les femmes. Les maris décédaient et ils laissaient des veuves, donc en terre d'Israël, qui était pourtant qui venait donc des pays autour du bassin méditerranéen. Et beaucoup de veuves s'étaient converties comme cela au Seigneur Jésus-Christ, et elles recevaient de l'aide de l'Église pour les aider à subvenir à leurs besoins. On voit notamment au chapitre 4 ce qui s'est passé pour subvenir aux besoins des personnes qui étaient dans le besoin, qui étaient pauvres ou qui étaient veuves. Mais il y avait une différence culturelle entre ces Juifs. Certains étaient nés en Israël, c'était des Hébreux qui lisaient la parole de Dieu en hébreu, qui parlaient hébreu ou araméen. Et puis les autres étaient des Juifs qui venaient donc de l'extérieur, qui eux lisaient plutôt la Bible des Septante en grec et qui avaient l'habitude de parler plutôt grec puisqu'ils venaient de ces pays autour du bassin méditerranéen. Et il y avait des problèmes qui commençaient à surgir comme ça. Les veuves étaient négligées, les veuves des hellénistes. Quand on distribuait de l'argent ou des vivres pour subvenir aux veuves, eh bien, hop, les veuves des hellénistes, c'est comme si on les voyait pas. On passait au-dessus et hop, on s'occupait plutôt des veuves qui étaient galiléennes. Alors, comment s'appelle cette mauvaise attitude? C'est du favoritisme. ont favorisé les unes plutôt que les autres. Et j'aimerais dire quelque chose sur ce sujet du favoritisme, parce que le favoritisme existe encore aujourd'hui, il existe dans l'Église du Seigneur. C'est terrible, mais à cause du péché qui est dans le cœur de l'homme, eh bien, parfois ça s'exprime aussi dans l'Église par le favoritisme. Il est touchant de voir que Jacques a écrit sur ce problème du favoritisme, même si le passage n'est pas en lien avec celui que nous venons de lire. Il a écrit cela, on pense que l'épître de Jacques, c'est peut-être la première épître qui a été écrite. Donc c'est la plus proche de l'Église. Et il y avait un problème de favoritisme, puisque Jacques va parler sur ce sujet. Et on va prendre Jacques 2, versets 1 à 4, si vous voulez. Jacques 2, versets 1 à 4. Il faut se dire aussi que pour les Juifs, tout le monde n'était pas égal devant Dieu. Hein? Ils étaient les Juifs, vraiment, et en plus les Juifs nés en Israël, et puis il y avait ceux de l'extérieur. Hein? Donc il y avait un décalage comme ça. Jacques 2, versets 1 à 4. Il est dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout. » ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Et c'est un autre favoritisme ici que celui dans le livre des Actes, et on peut dire qu'il y a toutes sortes de favoritismes. Il peut y avoir un favoritisme qui est dû à la culture, c'est pas la même culture. Ça peut être dû à la langue, ça peut être dû au niveau social, ça peut être dû à la manière de s'exprimer, au langage, on va s'écarter, ou bien simplement à cause de l'apparence, hop, il y a du favoritisme. Et on vient tous de milieux sociaux, culturels, qui sont différents, et il faut le dire, le favoritisme peut aussi être présent, il peut être présent dans notre Église. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par de l'ignorance. Dans les Actes, on ignorait les veuves hellénistes. Elles étaient négligées. On faisait pas trop attention à elles. On s'arrangeait pour pas croiser leurs regards parce que on est en train de servir. Hein. On est occupé, on a des choses à faire. On a plein de choses à faire. Et nous aussi, parfois, on ne fait pas attention à l'autre. Et on fait une certaine forme de favoritisme. On ignore l'autre. On ne le regarde pas. On ne s'intéresse pas à lui. C'est comme s'il est transparent. Ça passe à travers. Que ce soit quelqu'un qui soit de passage, ou que ce soit quelqu'un qu'on connaît bien, un frère, une sœur. Pourquoi certains sont transparents parfois ? Parce que son apparence ne fait pas partie de nos standards, de ce qu'on est habitué, voilà, on n'est pas pareil. Hein. Ou bien parce que son éducation laisse à désirer. La manière de s'exprimer, c'est pas ça. Ou bien parce que il y a un péché qui est encore bien visible sur lui. Oh, ça saute aux yeux. Alors hop, marche arrière. Ou bien parce que c'est le niveau social. Ou simplement parce que c'est pas une personne qui nous intéresse. C'est-à-dire, elle va pas m'apporter quelque chose. Donc, je m'intéresse pas à elle. Mais on peut se poser la question, est-ce que dans l'Église, on vient pour prendre où on vient pour donner. On vient pour donner quelque chose. Et je vous pose la question, est-ce qu'il y a des personnes dans l'assemblée, des frères, des sœurs, qui sont comme transparents pour vous, vous ne les voyez pas, et vous ne voulez pas les voir? Elles n'ont pas finalement le droit à votre amour, à votre attention, à un sourire, à une discussion. Est-ce que Jésus est en vous? Et s'il est en vous, qu'est-ce qu'il veut faire lui? En vous. Qu'est-ce qu'il attend que vous fassiez? Jacques, regardez, Jacques 2, versets 8 et 9, dit « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Et l'ignorance ou le mépris par ignorance, parce que finalement, à force d'ignorer, ça finit par passer comme être du mépris, eh bien c'est coupable. Aimer son prochain, aimer son frère, aimer l'autre, ça c'est la voie royale. C'est la voie que le Seigneur veut que l'on prenne. Et chacun a le droit à notre attention. Chacun existe et a besoin aussi, eh bien, qu'on s'intéresse à lui. Même si on n'a pas les mêmes affinités, même si il y a une grosse différence, ça n'a pas d'importance, ça. Jésus, il y avait une grosse différence avec tous les hommes. Et lui, eh bien, il s'occupait de chacun. Il n'y avait pas de différence. Il voulait vraiment être proche de chacun. À Jérusalem, les veuves des hellénistes étaient donc négligées. Et qu'est-ce qu'entraîna le favoritisme? Des murmures. Commencer à murmurer les uns contre les autres. De l'amertume. Quand les apôtres se sont aperçus du problème, ils ont dit, bon, il faut faire quelque chose. Hop, ils se sont mis à servir aux tables. Et ils ont fait le service, on ne sait pas combien de temps. Je ne sais pas, un jour, plusieurs jours, je n'en sais rien. Mais en servant, ils se sont arrêtés et ils ont pris conscience qu'il y avait un problème. Et ils se sont dit, mais c'est pas à nous, on ne doit pas faire ça, il ne faut pas qu'on fasse ça. On doit servir, oui, mais on ne doit pas servir de cette manière-là. Notre service, il est ailleurs. Alors, verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Quand on entend servir aux tables, on imagine notre grande table ici, et un banquet, là, enfin, on est en train de manger autour de la table, et des personnes qui sont en train de servir. Mais à l'époque, ils faisaient pas des agapes comme ça, hein. Ils étaient souvent allongés sur des coussins, il n'y avait pas de table, ou si une table basse, hein. Donc c'était pas du tout comme nos repas fraternels d'aujourd'hui. Et de plus, le mot table fait plutôt référence aux tables, vous savez, de ceux qui faisaient les péages. Donc, ils prenaient les droits de passage et les taxes. Et donc, il semble que c'est plutôt les tables où on partageait, où on faisait les distributions, en fait. Hein. Comme dans Acte 4, ils venaient, ils déposaient l'argent. Eh bien, on prenait cet argent et on distribuait aux pauvres ou aux enfants de Dieu qui étaient dans le besoin. Donc, probablement, c'était plus ça, hein, ce service. Mais quoi que pouvait être le service, il fallait des serviteurs pour faire le service. C'était une nécessité. Il y a une nécessité du service. Quand l'Église grandit, il faut qu'elle s'organise pour que tout se passe bien, que chacun soit à sa place, qu'il y ait des serviteurs partout. Et s'il n'y a pas les serviteurs qui prennent à cœur l'œuvre de Dieu et qui font leur charge, alors eh bien on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller bien loin. Et si on n'est pas vigilant, eh bien ça va pas bien se passer et le diable va se servir de ça pour casser, pour ruiner, pour détruire au travers du péché. Donc le service est nécessaire pour l'œuvre, pour que l'œuvre avance de la bonne manière, mais pas n'importe quel service. Et on vient de le voir, c'est vraiment le sujet de notre passage. Il faut que ce soit un service de qualité, si je peux dire. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Le service, c'est une responsabilité. Prendre part à l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre, c'est une responsabilité. Alors les apôtres dirent, verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Alors ce passage du livre des Actes, c'est devenu un passage de référence pour parler des diacres, en fait. Pourquoi? Parce que diaconéo, ça veut dire servir. Et ici, il y a l'idée du service. Et les frères qui ont été choisis ici sont sans aucun doute les premiers diacres de l'Église de Jésus-Christ, de l'Église primitive. Mais j'aimerais relever quelque chose. C'est que dans notre passage, le mot diaconéo et ses dérivés est aussi employé pour les apôtres. Regardez verset 2. Ils vont dire d'abord, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir diaconéo aux tables. Mais il dit ensuite, verset 3 à la fin, la deuxième partie, « Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au diaconéo, au ministère, au service de la parole de Dieu. » Et il est important de comprendre que le fait de porter la parole de Dieu, c'est un service comme un autre dans l'Église. Les apôtres étaient des serviteurs parmi les autres serviteurs. Et quel que soit le service que nous faisons, nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Dans l'église de Jérusalem, il y avait un besoin particulier ici, servir aux tables. Alors, eh bien, il fallait pourvoir pour ce ministère, pour ce service, il fallait tout simplement des serviteurs. Et je relève cela parce que on a l'habitude d'employer une expression, c'est « il est dans le ministère ». Et dire « il est dans le ministère », c'est dire « ben c'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est quelqu'un qui est à plein temps dans le ministère ». Mais on peut dire que tous ceux qui servent sont dans le ministère, c'est le même mot. Ils servent, donc ils sont en train d'exercer un ministère, un service pour le Seigneur, un service pour l'Église. Et c'est le cas, bien sûr, de ceux qui travaillent à plein temps dans l'œuvre. Et on voit ici que pour ce service, il ne suffisait pas de prendre le premier venu qui passe et lui dire, ben, tiens, tu pourrais faire ça, vas-y, fais ça, assieds-toi à la table et fais les distributions. Ici, Dieu nous montre que le fait de servir dans quoi que ce soit, c'est une responsabilité. Celui qui sert est responsable. Et il serait faux, je pense, de croire que ici, à ce moment de l'Église de Jésus-Christ, il n'y avait que 19 serviteurs, c'est-à-dire 12 apôtres et puis 7 diacres. Je ne pense pas que c'était ça. Il faut imaginer l'Église, ils étaient des milliers. Ça veut dire que dans ces milliers, il y avait des milliers de serviteurs, des milliers de chrétiens qui voulaient servir le Seigneur. Et probablement, ils ont dû faire un choix de 7, mais il y avait plein d'autres qui étaient aussi capables et aptes à servir et à faire la distribution aux tables. Mais il fallait faire un choix de 7 personnes parmi elles. Choisissez parmi vous 7 hommes. Mais il y en avait d'autres qualifiés aussi pour cette tâche. Et il faut expliquer ici ce qu'est un serviteur. Que faut-il pour être un serviteur? Et on doit se poser la question, suis-je un serviteur, un bon serviteur? Nous sommes une petite église et je pense que ce serait disproportionné d'avoir par exemple 15 ou 20 diacres. Mais la réalité, c'est que dans l'église, aujourd'hui, on a plus qu'un diacre. Hein, il y a plein de serviteurs et des personnes qui servent vraiment et sincèrement de tout leur cœur. Alors que faut-il pour être un bon serviteur? Les apôtres disent premièrement quelqu'un de qui l'on rende un bon témoignage. Donc le serviteur, c'est d'abord quelqu'un qui est apprécié par ses frères et sœurs parce que c'est un bon témoin dans le sens où il marche avec Jésus-Christ. Et c'est très important. Comment la multitude a-t-elle fait le choix de cet homme alors qu'il y avait plein de chrétiens? Je pense que le choix s'est imposé à eux. Peut-être quelqu'un a dit « Ah, un tel, Procor. » Et puis, il y a eu une quinzaine, une vingtaine, « Ah oui, Procor, oui, Procor. » Et puis, des acquiescements de la tête, c'était une évidence. Lui avait un bon témoignage. Il pouvait être mis de côté pour servir. C'est comme s'il y a un consensus. Parce que celui qui a un bon témoignage, il est connu. Il y a ses œuvres, il y a sa bonté, tout ça, c'est connu dans l'Église. Ensuite, quelqu'un d'un bon témoignage, c'est quelqu'un qui est irréprochable. Et l'irréprochabilité, ça ne veut pas dire la perfection ici-bas. Ça veut dire plutôt que l'on n'est pas reprochable. Reprochable. On ne peut rien vous reprocher. Le serviteur, c'est celui qui est sensible à Jésus-Christ et qui obéit à son Seigneur. Ça signifie que s'il agit mal, s'il se trompe, eh bien, il s'arrête, change de voie, il demande pardon. Donc, il est parfait dans le sens où il est irréprochable. On ne peut pas lui reprocher quelque chose. On ne peut pas l'accuser. Il est dans la lumière de Christ. Et nous devons tous être des diacres potentiels. Vous devez tous être diacres potentiels, serviteurs potentiels. C'est-à-dire des serviteurs qui sont disponibles et le Seigneur peut dire, mais tiens, je vais le prendre lui et je vais m'en servir ici. Est-ce que vous êtes des diacres potentiels? Suis-je? Parce que on se dit souvent, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Je fais rien pour le Seigneur. Mais on devrait plutôt se poser la question, est-ce que je suis déjà un serviteur pour mon frère, pour ma sœur, pour les autres? Est-ce que je suis déjà un diacre potentiel? Est-ce que j'ai un bon témoignage vis-à-vis d'eux? Les apôtres dirent deuxièmement qu'il faut qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela signifie? On reçoit le Saint-Esprit le jour de notre conversion. Le Saint-Esprit entre dans notre cœur et il nous remplit. Et souvent, cette expérience est merveilleuse. Dès les premiers jours, les premières semaines, c'est merveilleux. On est dans la joie, on est rempli du Saint-Esprit. Mais maintenant, eh bien, il faut continuer à être rempli du Saint-Esprit. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas une seconde expérience future dans la vie chrétienne, mais c'est l'expérience de la vie chrétienne. C'est ce que Dieu veut pour tous ses enfants, et nous avons tous le Saint-Esprit. Maintenant, il faut qu'il s'exprime dans sa plénitude. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Comment on l'est? Simplement en marchant dans la lumière. En marchant dans la lumière de Christ. Il n'y a rien que Dieu me reproche. Je lui obéis. Je veux lui donner ma vie. Je veux vivre pour lui. Je veux marcher avec lui. Pas de péché, pas de désobéissance. Tout est confessé. Soumission. Désir de lui plaire. Mais il fallait néanmoins que la multitude choisisse des personnes remplies du Saint-Esprit. Alors là, une question se pose, mais comment on sait qu'une personne est remplie du Saint-Esprit? Il n'y a pas une jauge sur le front qui dit plein, vide, ou c'est pas comme un pneu, là, parce qu'en arrivant, là, vous savez, le Saint-Esprit, c'est pneuma. Et ça a donné le pneu, hein. Et en face, là, il y a une voiture avec un pneu dégonflé. Alors on peut dire, ben là, c'est vide. Hein. Mais les chrétiens, c'est pas comme ça. Hein. Il n'y a pas une jauge où on voit pas qu'ils sont dégonflés. Mais on peut savoir qu'une personne est remplie de l'Esprit à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et l'Esprit se voit par les fruits qu'il porte. Le fruit de l'Esprit, dans Galates, on lit, c'est l'amour. C'est d'abord l'amour. Est-ce qu'il y a de l'amour? De l'amour pour les frères et sœurs? On parlait tout à l'heure du favoritisme. C'est le contraire de l'amour, hein, faire du favoritisme. Manifestement, les personnes qui servaient aux tables, au départ, n'étaient pas remplies de l'Esprit. Sinon, elles auraient été équitables, justes, et il n'y aurait pas eu de favoritisme. L'amour nous fait aller vers l'autre. L'amour ne juge pas l'autre sur la première impression, sur l'apparence extérieure, sur le niveau social. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est également la longanimité. C'est pas un mot qu'on utilise souvent, ça, la longanimité. Dans notre version, c'est patience. Ça a été traduit par patience. Et dans la longanimité, il y a le sens de patience, mais c'est plus riche que la patience. D'ailleurs, le mot grec est traduit ailleurs par douceur. Donc il y a la patience, il y a la douceur. Une fois, c'est traduit par persévérance. Donc vous mettez tout ça ensemble. Et finalement, quelqu'un qui est longanime, c'est quelqu'un qui est indulgent avec les autres. Il est porté à pardonner ce qu'on pourrait punir. J'ai entendu une fois quelqu'un qui s'étonnait que dans le fruit de l'Esprit, en Galates 5:22, il n'y ait pas le pardon. Mais finalement, là, dans la longanimité, nous, c'est traduit par patience, peut-être on le sent moins, mais il y a l'idée du pardon, ici, dans la longanimité. D'ailleurs, en Colossiens, Paul utilise ce mot. Regardez, Colossiens 3:12. Il dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité ou de patience, peut-être dans votre version. » Donc, ici, Paul vient parler du mensonge juste avant. Et puis après cela, il dit, mais compassion, mes frères, bonté, humilité, douceur, longanimité. Et regardez le verset suivant, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et on sent bien ici la pensée de Paul, hein, quand il emploie ce mot, il arrive jusqu'au pardon. Et dans la longanimité, eh bien, il y a l'idée aussi du pardon, d'être indulgent, d'être compréhensif. Comment reconnaît-on une personne qui est remplie du Saint-Esprit ? Elle est longanime. Ça ne veut pas dire qu'elle est laxiste, molle et qu'elle ne dit jamais rien. Mais elle est longanime. Elle est longanime. Elle est pleine de patience et de douceur. Le fruit de l'Esprit, c'est aussi la bonté, la bienveillance. Il y a un désir de faire du bien aux autres. Non plus de vivre pour soi-même, mais de vivre pour les autres, de les enrichir, de les aider. Le fruit de l'Esprit, il est dit aussi, c'est la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Est-ce que vous savez vous contrôler? Contrôler les pulsions, les réactions? Ou bien vous contrôler face à une tentation? La maîtrise de soi. Les apôtres vont ajouter également que les serviteurs aient de la sagesse. La sagesse, c'est de l'intelligence pratique. Ça nous permet de prendre les bonnes décisions. Et même si on a commis des erreurs, même si on s'est trompé, Jacques dit bien, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous sans reproche, elle lui sera donnée. Par qui? Comment elle lui sera donnée? En fait, par Dieu, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient éclairer, qui va nous donner cette sagesse pratique pour faire de nous des serviteurs, des bons serviteurs. Et on reconnaît tout de suite la sagesse d'en haut. Jacques dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde, de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Là, vous avez encore plein de signes, voilà, des fruits qui montre, eh bien, il y a l'esprit ici. Ça ne veut pas dire qu'une chute, qu'un mauvais conseil, ça raye une personne. Ah ben non, on ne peut pas servir, hein, ce n'est pas possible. Mais c'est plutôt ce qui ressort d'une vie entière. Vous regardez toute une vie, vous passez du temps avec une personne. C'est comme ça qu'on peut avoir confiance en quelqu'un. Ça prend du temps. Il faut qu'on regarde une vie. Et là, on dit, bah oui. C'est évident. Ce cœur est au Seigneur. Ce cœur vit pour le Seigneur. Donc, il n'y a pas une jauge qui dit rempli de l'esprit ou vide. Mais il y a des fruits. Il y a des choses qui nous montrent. C'est une évidence. Le Seigneur nous dit, soyez remplis de l'esprit. Ça signifie que nous ne le sommes pas toujours. Et on devrait se demander, suis-je un servante? Une servante, pardon, ou un serviteur potentiellement éligible pour un diaconat, pour un service. Est-ce que Dieu peut se servir de moi? Une condition, c'est l'Esprit en nous, dans sa plénitude, lequel se manifeste par son bon fruit. On peut ajouter que ce fruit de l'Esprit, c'est pas quelque chose que l'on produit par soi-même. Mais le fruit de l'Esprit, c'est de l'Esprit, ça vient de l'Esprit, c'est lui qui le produit, ça monte tout seul. C'est l'œuvre de Dieu en nous simplement quand on marche dans la fidélité, dans la consécration, dans un cœur qui lui appartient. Quand on est en communion avec Christ, parfois on est en décalage par rapport à la volonté de Dieu. en décalage par rapport à l'obéissance qu'il attend de nous, en décalage par rapport à l'amour que nous devrions avoir pour lui et avoir pour les frères et sœurs. Et comment ça se traduit ? Ben, par de l'impatience, par un manque de pardon, par de l'irritation, par de l'égoïsme, on ne pense plus qu'à soi, par un manque de maîtrise de soi, par l'acceptation de ce que nous savons être un péché, mais on l'accepte. Et quand on n'est plus en communion parfaite avec le Seigneur, qu'est-ce qui se manifeste ? Quels sont les fruits ? Ben, c'est le contraire. C'est les fruits de la chair. Et ça ressort. C'est, vous touchez un peu et ça ressort. Et on n'a pas fait d'effort, hein. Les mauvais fruits, ça sort tout seul. Mais le bon fruit de l'esprit, ça sort aussi tout seul. Quand on est en communion avec le Seigneur, hop, ça émane. C'est Dieu. Si donc on voit la manifestation de mauvais fruits, ce dont on a besoin, c'est de la repentance. Se repentir de nos péchés, se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. L'amour pour le Seigneur, c'est la chose dont nous avons le plus besoin. Et je voudrais juste faire une mise en garde. Ne vous dites pas, Dieu veut pas que vous vous regardiez les uns les autres et vous pensiez, je pense à quelqu'un, lui, il n'est pas rempli, hein. Dieu veut que vous vous regardiez vous-même, que vous vous jugiez vous-même et que vous vous demandiez, mais moi, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ? L'amour pour le Seigneur, c'est la chose la plus importante dont nous avons besoin. L'amour pour le Seigneur devrait être le moteur de notre vie. Est-ce qu'on aime encore le Seigneur, vraiment ? Parfois, nos vies sont comme arrêtées. On n'avance plus. Vous savez, c'est comme Joshua déraille. Il est sur son vélo, il déraille. Et puis, il est là, papa. Il n'avance plus. Et nous, parfois, on est là, on déraille. Et puis, on pédale. L'illusion qu'on avance, parce que la vie continue, le temps tourne. Mais la réalité, c'est qu'on n'avance plus avec le Seigneur. On a déraillé. On est à côté. C'est ce que le Seigneur va reprocher à l'église d'Éphèse. Regardez Apocalypse. Apocalypse 2, versets 1 à 3. D'abord les premiers versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ici, ça commence bien. Vous ne trouvez pas ? Ça commence bien avec cette église, très bien. Elle fait des œuvres. Elle travaille. Elle est persévérante. Parfois, elle travaille beaucoup. Nous travaillons beaucoup. Et peut-être, parfois, on travaille beaucoup pour le Seigneur. On peut même être quelqu'un qui a déjoué les pièges du diable. Il a su voir, oh là, il y a un piège, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui a été vigilant, sur ses gardes, fidèle, entre guillemets, dans le chemin du Seigneur. Et verset 3, « Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. » Là encore, des qualités de la persévérance, de la souffrance pour le nom de Christ. Verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est incroyable. On peut faire des œuvres. On peut être très actif. On peut accepter des souffrances pour Christ. Et en même temps, il nous manque l'essentiel. L'essentiel. Le cœur, le centre, la relation avec Dieu. Le premier amour. C'est-à-dire, c'est l'amour qui rend tout possible. C'est l'amour qui fait que marcher avec Christ, c'est la joie, c'est le plaisir. L'amour qui nous rend capable de tout abandonner pour le Seigneur, quoi que ce soit. L'amour qui ne tient rien pour soi-même. L'amour qui fait que l'on est vraiment à lui et qu'il est à nous. Alors, Posons-nous la question, suis-je un serviteur potentiellement éligible pour un service, pour un diaconat? Suis-je tout simplement un vrai serviteur pour l'Église qui est son corps? Le service est donc une responsabilité. C'est une nécessité pour l'Église et c'est une responsabilité. Dieu ne peut confier le service qu'à des personnes qui marchent avec lui. Paul dit une chose intéressante dans 1 Timothée, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le diaconat, dans le service hein, ou au service. » Dieu peut-il compter sur nous? Est-ce que on est des serviteurs fidèles et vraiment on est disponible? Et j'aimerais terminer courtement en disant que le service c'est aussi une joie. Quel bonheur d'être à sa place, de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, de se savoir dans la volonté de Dieu. Quel bonheur d'être de l'argile malléable. Dieu veut faire un bord comme ça? Seigneur, vas-y, fais ton vase. Fais comme tu le veux. Je me laisse faire, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Quel bonheur de le glorifier. Quelle grâce. Ça, c'est son but. C'est sa volonté pour chacune de nos vies. Il veut qu'on soit joyeux dans un service efficace. Un service fait par lui, au travers de nous et pour lui. Non pas dans nos propres forces, mais dans l'énergie qui vient de Dieu. Ça n'est possible que quand Christ a tout notre cœur. Et Dieu ne peut avoir tout notre cœur que quand nous l'aimons de notre premier amour. L'amour, c'est un feu qui nous rend capable de tout accepter. L'amour, ça nous permet de le suivre jusqu'au bout s'il le fallait. Il y a une expression qui dit « l'amour rend aveugle ». Vous avez une jeune fille amoureuse d'un jeune homme et terminée, voit plus rien. Parfois, il faut que les parents disent « oh là, attention, hein, ouvre les yeux, hein, le jeune homme en question, je suis pas sûr que c'est ça. Hein. » Eh bien, pour le Seigneur, vous savez, on peut dire que l'amour rend aveugle, mais dans le sens où il nous rend aveugles sur les choses qui sont sans importance. On devient aveugle des choses qui sont secondaires. L'amour, il nous focalise sur la personne du Seigneur. L'amour, il nous focalise sur la personne du Seigneur. Et soudain, c'est lui qui compte le plus. Alors pour lui, je suis prêt à tout. À tout. Cet amour-là, il est pas mauvais. Cet amour-là, il est salutaire. Aimer le Seigneur plus que tout. Plus que ses parents. Plus que ses enfants. Plus que son conjoint. Plus que le monde. Plus que sa propre vie. Ça, c'est le vrai amour. C'est le premier amour. C'est l'amour dont le Seigneur nous a parlé dans les évangiles. Et c'est cet amour-là qui nous a poussés à nous jeter dans ses bras, à nous convertir. On a dit « Oui, Seigneur ». Et voilà, tout entier pour le Seigneur. Prends mon cœur, prends ma vie. Et c'est peut-être cet amour-là que vous avez abandonné en chemin. Vous l'avez mis de côté. Alors, eh bien, qu'on puisse tous, ce matin, avoir ou retrouver ou brûler de cet amour qui fait de nous et qui fera de nous un bon serviteur, une bonne servante. On va s'incliner dans la prière.